SBS Radio.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le plaisir d'avoir Bertrand Debilly sur les ondes de SBS French en Australie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chef d'orchestre, vous êtes l'invité du Melbourne Symphony Orchestra pour une série de concerts. Parlez de ces trois concerts à l'affiche au Emma Hall du Arts Centre de Melbourne du 2 au 5 août prochain.
Exact. En fait, c'est très émouvant pour moi. C'est la première fois que je viens en Australie. Donc, c'est un nouveau monde pour moi, une découverte d'un pays qui a l'air absolument fascinant, je dois dire. Donc, je découvre une nouvelle mentalité et un orchestre merveilleux avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler pour l'instant, vraiment.
Et à la veille de ces concerts, comment vont les répétitions? C'est la dernière ligne droite, comme on dit.
Voilà, c'est la dernière ligne droite. Vous savez, c'est toujours ce que je pense, en fait. Il y a trois jours de répétition, trois concerts. C'est comme un grand voyage. Le but, c'est pas pour moi le premier concert. C'est vraiment le développement depuis la première répétition jusqu'au dernier concert. Et je dois dire que le développement et l'ouverture des musiciens est absolument magnifique. On a déjà fait quatre répétitions maintenant avec le soliste, avec Johannes Moser tout à l'heure. On a le général demain matin. Et c'est un grand bonheur. Vraiment, je découvre vraiment un orchestre de qualité que j'ignore, pour tout vous dire, vraiment.
Et à quoi peut s'attendre le public australien lors de ces trois concerts?
Mais j'espère de la belle musique d'abord, ouais. Et puis un programme très, très riche. On commence avec le prélude de Siegfried et Lille, qui est un petit bijou de Wagner. C'est une des rares pièces de chambre de Wagner, et puis le concerto pour violoncelle d'Elgar, qui est aussi un tube, j'allais dire, pour chaque violoncelliste, qui est une pièce écrite juste après la Première Guerre mondiale, et qui est très émouvante, et Johannes fait ça merveilleusement. Et puis après, deuxième partie, Ainsi par les Zarathustra, de Strauss, qui est un cheval de bataille pour chaque orchestre, pour chaque chef d'orchestre, et pour chaque audience aussi, j'allais dire, parce que tout le monde connaît bien sûr le début de cette pièce avec le film de Kubrick, sûrement. Oui. Mais il y a beaucoup plus de cette pièce-là que seulement les deux premières mesures, les deux premières minutes. Et c'est un programme très riche, qui est très compact et qui montre des tas de qualités différentes, puisque comme vous disiez, pour le Wagner, c'est vraiment l'orchestre de chambre. Le Elgar, c'est un orchestre d'accompagnement. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Johannes Moser, c'est un concerto qui est presque de l'opéra. C'est vraiment de l'improvisation. Le violoncelle chante vraiment comme un chanteur. Et puis le Zarathustra qui demande un contrôle parfait de chaque musicien. Il y a des grands solos, des grands solos du long. Il y a des moments de puissance, de fortissimo énorme, et puis des moments de grande tendresse. Des moments d'humour aussi. Strauss avait aussi beaucoup d'humour, surtout sur la fin, vous savez, quand il se cite lui-même. Donc c'est un programme très, très varié et très complet, je vais dire.
Et vous connaissez bien Johannes Moser qui va vous accompagner?
Alors, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. On est déjà, je l'avais écouté, je crois, à Francfort, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, et on est, pour la deuxième, il y a eu une première partie, deuxième partie, on était assis ensemble dans la salle, donc on se connaît il y a quelques années, mais pas en tant que musicien qui travaille ensemble, mais en tant que spectateur d'une deuxième partie de concert. Mais bien sûr, je connais sa carrière, je connais son enregistrement magnifique qu'il a fait déjà de ce concerto d'Elgar. Et ça a été vraiment une entente magnifique et facile tout à l'heure. On s'est rencontrés avant au piano, comme d'habitude. Et puis avec l'orchestre, c'est une pièce que l'orchestre connaît très bien. Ils viennent de le faire au prom, je crois. Et ça a été vraiment avec Johannes. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on rencontre un soliste et ça se passe bien, sans qu'on ait à se poser beaucoup de questions. On est sur la même longueur d'onde, j'allais dire. Donc c'est assez agréable, je veux dire.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter brièvement votre parcours professionnel, vos premiers pas vers le classique, par exemple?
Alors moi, je viens d'une famille qui est non musicienne. ce qui peut paraître un peu bizarre, mais ce que je prends, moi, comme un grand avantage. J'ai eu une enfance normale. Je ne suis pas un petit génie qui a 5 ans était déjà au piano, au violon ou à la direction d'orchestre. J'ai fait des études normales et puis petit à petit, je me suis vraiment intéressé à la musique. Qui a d'ailleurs donné dans la famille, il n'y a jamais eu de musicien dans la famille. Mon frère est chirurgien, ingénieur, professeur maintenant. C'est tous des gens normaux, j'allais dire. Et puis, il y en a un qui a mal tourné. Donc c'est vrai que ça a été pour moi, quand j'ai commencé la musique, il a fallu que un pouvoir de conviction pour expliquer à mes parents non, je veux faire ça. Et donc ça a été un développement assez naturel avec une enfance normale, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une ambiance baignée que de musique, au contraire. Ça a été un développement naturel et j'ai joué dans les orchestres très souvent. J'étais violoniste puis altiste et puis j'ai commencé avec un orchestre jeune et puis la carrière s'est vite développée d'ailleurs à l'étranger, comme souvent pour les Français. J'ai mon premier poste en Allemagne et puis après en Espagne et puis en Autriche et j'habite à l'étranger en fait depuis que j'ai 25 ans, quoi. J'en ai 54 maintenant et je reviens assez peu en France maintenant, un petit peu plus. Mais c'est vrai que j'ai surtout fait ma carrière à Vienne au départ, puisqu'à Vienne on m'appelait le plus viennois des Français et en France on m'appelle le plus français des Viennois. Donc c'est merveilleux parce qu'on peut rencontrer différentes cultures. J'essaie toujours d'apporter aux orchestres un petit côté français et quand je suis en France, d'apporter aux orchestres un petit côté germanique. C'est l'Europe avant l'heure, c'est l'Europe ou même le monde. Dans la musique et dans l'art. Et c'est ça qui est fantastique. Là, c'est un orchestre que je découvre depuis deux jours. J'ai souvent l'habitude de travailler avec les mêmes orchestres. Et là, j'ai dit, bon, je vais faire un petit peu des nouvelles rencontres. Et là, je dois dire que c'est une belle rencontre ici.
Absolument. Et après Melbourne, il y aura cette autre collaboration avec la Tasmanian Symphony Orchestra.
Après Melbourne, je reste en Australie pendant deux ou trois semaines. Ouais. Après, je vais en Tasmanie faire un concert. Et puis après, je finis avec Auckland.
Ah oui, en Nouvelle-Zélande avec le Auckland Symphony Orchestra.
Voilà, exactement. Avec un programme français d'ailleurs, si je ne m'abuse. Français et belge, puisque la Symphonie de Franck, on fait du Debussy. Et la Symphonie de Franck. Et puis le concerto pour orgue de Poulenc. Qui est aussi une vraie merveille. Et puis en Tasmanie, ce sera un programme plutôt germanique, Mozart Haydn.
Et donc, il ne faut pas rater ces dates, le 15 août et le 22 août en Nouvelle-Zélande. Et je vois que vous avez un calendrier très chargé pour le reste de l'année dans plusieurs villes capitales du monde.
Oui, vous savez, mon souhait, ça a toujours été de ne pas être seulement un chef d'orchestre symphonique, même si c'était mes premiers amours, mais je fais beaucoup d'opéra et avoir un équilibre entre l'opéra et le symphonique, c'est pour moi une évidence et une nécessité. Avec même des orchestres de chambre, puisque je suis souvent avec l'orchestre de chambre de Lausanne, j'habite à Lausanne d'ailleurs, ouais. Et donc les trois aspects, vous savez, c'est la culture des répertoires symphoniques, c'est la flexibilité de l'opéra, et puis le travail de détail de petits groupes de l'orchestre de chambre. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin quand j'ai travaillé les écrits d'Idylle de Wagner. J'ai retrouvé avec, parce qu'on fait en petite distribution, c'est un orchestre réduit avec seulement 8 premiers violons. Et au contraire de Strauss qui est un énorme effectif. Donc on a fait ce travail de musique de chambre. Et j'ai joué sans moi. Enfin, moi je suis là pour les écouter, pour les guider. Plus conducteur d'ailleurs que l'orchestre. Je préfère de loin le mot conducteur, c'est quelqu'un qui montre une direction. C'est l'idée de chef d'orchestre, j'aime pas trop, c'est dirigent, comme on dit en allemand. C'est pas non plus mon style, c'est surtout, je suis un musicien parmi d'autres, mais je suis le seul qui produit pas de son d'ailleurs pendant la soirée. Ils ont tous des instruments. Moi, je ne fais rien, je bouge mes petits bras. Mais donc c'est faire jouer les gens ensemble, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Et même avec le Strauss, où il y a une centaine de musiciens, très souvent, je disais, écoutez-vous, faites la musique de chambre avec gros effectifs. Et ça, c'est très excitant, je dois dire. Et l'orchestre répond très bien à ça.
Oui, et je rappelle aussi également que vous avez un répertoire de CD et de DVD qui documente votre travail avec les différents orchestres. Mm-hmm. Et c'est disponible vrai. Au public.
Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, assez souvent, maintenant, de plus en plus, des enregistrements d'opéra en live, parce que au départ, il y avait encore des budgets pour faire des enregistrements en studio. Maintenant, de moins en moins. Et puis, c'est pas plus mal, parce que finalement, on enregistre deux, trois spectacles, une ou deux répétitions. Et, c'est vraiment une image. Vous savez, je pense que le problème des CD et des DVD, c'est qu'on les prend comme une référence. Moi, je prends ça vraiment comme une image. C'est à un moment donné. Ce jour-là, c'était comme ça. C'est comme quand je suis souvent au métropolitain à New York, et quelquefois des représentations qui passent dans les cinémas, dans le monde entier, il y a 350 000 personnes qui regardent des choses comme ça. Si on passe son temps à se dire pendant le spectacle, oulala, on me regarde de partout dans le monde, on est complètement paralysé. Et je dois dire que mon expérience à Vienne de chef de l'orchestre de la radio, où chaque note que vous faites est enregistrée, mais vous prenez une certaine distance des micros, vous oubliez les micros, et vous êtes là pour le public qui est là, et puis il y a d'autres personnes qui l'écoutent, mais il faut essayer de rester le plus frais possible. Donc c'est vrai que souvent, les disques que je fais en live me plaisent plus, même s'ils sont parfois techniquement pas parfaits, il y a quelque chose qui ne sont pas vraiment ensemble, des petites pannes, mais il y a une vivacité, il y a le caractère de live, quoi. C'est la différence entre le théâtre et le cinéma. J'aime le cinéma, mais c'est vrai que le théâtre, vous remettez à chaque fois les choses en jeu. Oui. C'est très beau.
Bertrand Dobilly, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. On vous souhaite un bon séjour en Australie et aussi en Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Plaisir.
Au revoir.
De rien. Au revoir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.